Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester fidèle à Radio de la Paix pour ce point de l'actualité de la mi-journée. En titre, 27 décembre 2025, c'est la date proposée par la Commission électorale indépendante pour les prochaines législatives ivoiriennes au cours d'une réunion hier avec les partis et groupements politiques. Rencontre boycottée par le PDCI-RDA qui argue une démarche pour mettre à mal la dynamique de l'opposition. Dans l'actualité, hors de nos frontières, tentative de coup d'État au Mali, plusieurs personnes arrêtées, dont un Français, selon un communiqué lu par les autorités militaires hier soir. Et puis, vous aurez un dossier d'actualité consacré à la période des soldes proposée par Mata Touré. Avant de terminer par l'invité de la rédaction avec Mamadou Koné, qui est le président de l'ASACI. Il reviendra sur la convention signée par son organisation et le fonds de garantie automobile sur la prise en charge rapide des victimes des accidents de la voie publique. En Côte d'Ivoire, les prochaines élections législatives pourraient se tenir le samedi 27 décembre prochain. C'est la proposition que la Commission électorale indépendante compte soumettre au gouvernement ivoirien. L'annonce a été faite hier jeudi par son président Koulibaly Ibrahim Koubière lors de la réunion d'information et d'échange sur les dispositions pratiques liées à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le compte-rendu est signé Junior Cardin.
Réunis autour de la commission électorale indépendante, les acteurs politiques ont été informés des préparatifs en vue des législatives.
Compte tenu des impératifs constitutionnels et de la nécessité de permettre la rentrée parlementaire avec les nouveaux élus le 19 janvier 2026, date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante propose au gouvernement la date du 27 décembre 2025 pour l'organisation des prochaines élections législatives.
Pour étayer sa proposition du 27 décembre, le président de la CEI, Koulibaly Koubière Ibrahim, s'appuie sur les dispositions constitutionnelles.
L'article 90, alinéa 1 de la Constitution prescrit que les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Ce qui, pour l'Assemblée nationale, correspond au 31 décembre 2025, si l'on se réfère à l'article 94, alinéa 4 de la Constitution qui indique clairement que la deuxième session de l'Assemblée nationale prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Quant aux inquiétudes exprimées par certains sur un possible chevauchement avec la présidentielle, susceptible d'affecter la qualité des opérations, le président de la CEI se veut rassurant.
Tout a été planifié de façon à faire débuter le dépôt des dossiers de candidature après la proclamation solennelle des résultats pour la désignation du prochain président de la République. Ce faisant, la CEI pourra se consacrer ensuite entièrement à l'organisation des élections législatives.
En revanche, Koulibaly Koubière Ibrahim affirme qu'une révision de la liste électorale avant la fin de l'année est irréalisable.
Puis à cette réunion d'échange entre le président de la CEI et les acteurs politiques portant sur les prochaines législatives, le PDCI-RDA, parti d'opposition, n'y a pas pris part au motif qu'il dénonce une procédure inhabituelle engagée alors que le pays se prépare à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Écoutons à ce propos un extrait de la déclaration lue par Jean-Luc Niagui, haut représentant du président du PDCI-RDA, à cet effet.
Le PDCI-RDA marque son étonnement quant à cette procédure inhabituelle qui intervient en plein préparatif de l'élection présidentielle, élection majeure de la vie de notre nation. Visiblement, cette démarche insinueuse a pour objectif de mettre à mal la dynamique de mobilisation de l'opposition contre un quatrième mandat anticonstitutionnel et passer en perte et profit les revendications légitimes pour une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Au demeurant, le PDCI-RDA n'est pas concerné par cette invitation, d'autant plus que le parti a suspendu le 14 avril 2025 sa participation à toutes les activités de la commission électorale indépendante, tant à la commission centrale que dans les commissions électorales locales. Le PDCI-RDA reste attaché à son ambition de voir le président de la République convoquer un véritable dialogue politique préalable à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée.
C'était à l'instant un extrait de la déclaration du PDCI RDA lu par Jean-Lican Yagi au représentant du président du parti. Parlons du Forum du Grand Ouest pour la paix à Giglo qui se tient depuis le 13 août et ce jusqu'au 16 août avec pour thème le Grand Ouest de la guerre à la paix retrouvée, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager. Ce forum organisé par le Conseil régional du Cavali vise à l'approche de l'élection présidentielle à contribuer à la consolidation d'une paix durable et inclusive. Plusieurs délégations venues des 10 régions du Grand Ouest prennent part. C'est ce que nous rapporte notre correspondant Ignace Ditibo.
Ils sont venus, dit-on, oui, du Guémon, du Cavali, de San Pedro, du Haut-Sassandra, du Gor, de la Maraoué, du Lodibois, de la Nawa et du Boclé pour prendre rendez-vous avec l'histoire. Le soutien de l'État ivoirien et des partenaires au développement est total. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, présidente de la collectivité décentralisée et du colloque, précise la particularité de l'événement.
Nous entendons des violences verbales, des menaces, des appels qui ne rassurent pas. Une élection présidentielle, ce n'est pas un appel à la guerre, c'est un appel à la démocratie. Un appel pour choisir qui doit diriger notre pays. Est-ce qu'une élection présidentielle, c'est la guerre? Est-ce qu'une élection présidentielle, ce sont des palabres? Est-ce qu'une élection présidentielle, ce sont des insultes? Est-ce qu'une élection présidentielle doit provoquer des exilés? Est-ce qu'on doit fuir le village à cause d'une élection présidentielle? Chers frères et sœurs, nous devons conjurer le mauvais sort. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité nous convier tous à ce grand rassemblement pour nous souvenir de ce qui s'est passé. Pas pour nous venger, mais pour dire ensemble, plus jamais ça.
Des engagements concrets et des recommandations de gouvernance locale sont attendus au thème des 4 jours du Forum de la paix. Ignace Guitibo, Guiglo, Radio de la paix.
Toujours dans l'actualité nationale, la renonciation récente à la nationalité française de l'ex-premier ministre Patrick Achi fait réagir. Pour Dr Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif, quoique cette renonciation ait un caractère personnel, dans le cas de Patrick Achi, l'on est obligé de faire le lien avec la politique, notamment dans l'optique de former un duo avec le candidat Alassane Ouattara pour la présidentielle du 25 octobre. Écoutons les explications de Dr Landry Amoussou.
En réalité, c'est une décision, effectivement, qui est une initiative personnelle, renoncer à sa deuxième nationalité. Mais on est obligé de faire un lien avec peut-être les ambitions politiques des anciens premiers ministres parce que, contrairement aux autres échéances électorales, l'élection présidentielle requiert un vice-président qui est exclusivement ivoirien. Peut-être que cette démarche s'inscrit dans un duo présidentiel qui sera peut-être présenté aux Ivoiriens dans quelques temps, avec le président Ouattara comme président et peut-être le vice-président Patrick.
Comment est-ce que cette renonciation de nationalité est différente de celle de Tidiane Thiam? En quoi c'est différent dans les deux cas?
Cette double nationalité, n'oubliez pas qu'en droit ivoirien, elle suggère deux cas. Soit l'individu a renoncé à sa double nationalité ou le cas où il avait sollicité la nationalité française. Mais dans les deux cas, la question effectivement mérite d'être discutée auprès du Conseil constitutionnel. Je crois que les deux ne sont pas dans la même situation. De toute façon, il reviendra au Conseil constitutionnel de valider ou pas la candidature de M. Achi. Comme je disais tantôt, c'est une démarche qui s'inscrit peut-être dans le duo et on verra les arguments qui seront effectivement invoqués pour savoir si cette renonciation entre dans l'article 55 ou 54 de notre Constitution.
À l'instant, Dr Landry Amoussou, spécialiste en droit administratif, il a été joint par Constant Maïli. Direction Yamoussoukro, où la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire a organisé vendredi dernier une journée d'information, de sensibilisation et d'échange réunissant ses plus de 4000 délégués villages et tous les dirigeants des sociétés coopératives. L'événement avait pour objectif de présenter les projets réalisés par la Fédération, les défis à relever pour dynamiser le secteur ainsi que les perspectives d'amélioration. On en sait plus avec notre correspondant Emiliao.
Les producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire, représentés par Dali Jules, le président du conseil d'administration de la Fédération des organisations professionnelles agricoles du secteur, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour son soutien continu à leur filière.
Depuis son accession au pouvoir d'État, il a suffisamment démontré que les producteurs des filières agricoles sont l'objet d'une attention particulière de sa part.
À cette occasion, Charles-Emmanuel Yassé, président du conseil d'administration de la PROMAC, a dressé un bilan des actions de développement menées sur le terrain, mettant en lumière les performances remarquables de la Côte d'Ivoire dans la filière EVA-icole.
En effet, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc naturel, occupe le troisième rang mondial avec une production qui croît à un rythme moyen de 21% par an. La production nationale de caoutchouc naturel est passée de 350 000 tonnes en 2015 à plus de 1 700 000 tonnes en 2024.
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, a salué ses réalisations tout en soulignant les défis futurs à relever.
Nous avons atteint notre capacité de transformation de premier niveau. C'est pour cela que l'objectif, c'est de produire davantage. Le défi que nous devons relever aujourd'hui n'est pas de nous limiter à la transformation de premier niveau. Nous devons aller au-delà pour atteindre le deuxième, le troisième niveau.
Enfin, les 4014 délégués villages et 360 dirigeants des sociétés coopératives présents à cette rencontre ont été chargés d'une mission de sensibilisation auprès de leurs pairs producteurs afin de promouvoir le projet de valorisation du bois de l'EVA. Émile Yahoo, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
De Yamoussoukro, cap émis sur la ville d'Abangourou, où la préfecture de région de l'Indénié Diabla a abrité un important atelier de restitution de l'étude sur l'élaboration du plan climat du district autonome de la Comoué. Le compte-rendu est signé Patrick Kwadio.
Objectif principal, présenter les grands axes du diagnostic territorial réalisé, identifier les enjeux environnementaux majeurs, recueillir les contributions des acteurs locaux pour enrichir le futur plan climat. Aristide Goné, directeur général de l'initiative pour le développement de l'agriculture en Afrique, INIDA, cabinet en charge de la réalisation du plan climat.
Nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes de façon très participative. Nous avons inclus tous les acteurs du territoire dans l'approche, dans la méthodologie. Nous avons travaillé en deux phases. Dans un premier temps, nous avons fait un diagnostic climat. Le diagnostic climat a permis de pouvoir élever en fait certains impacts négatifs du changement climatique sur le territoire. À l'issue de ça, nous avons élaboré un plan climat qui est un ensemble de mesures, projets, actions visant vraiment impacter positivement la réduction des effets du changement climatique.
Le district autonome de la Comoué est l'initiateur de ce projet. Le premier vice-gouverneur a mis en quoi?
Quand on parle de plan d'action climat, il s'agit bien de l'agrémentation de la pluviométrie. Et lorsqu'il y a une conséquences de pluviométrie, il y a beaucoup de choses qui se signalent. Absence d'eau, sécheresse et tout ça, ça crée des problèmes. Vous savez bien que l'eau, d'abord, est source de vie et source de mort. S'il n'y a pas l'eau, il y a problème. Les plantes et tout ça, l'homme même ne tiendra plus. C'est une des raisons majeures pour lesquelles cet atelier a pu avoir lieu. Après le diagnostic, aujourd'hui, c'est le plan d'action pour lequel nous allons nous initier à voir les actions correctives pour tenter de régler un peu ce qu'on peut régler.
Le changement climatique est un phénomène qui préoccupe plus d'un dans la région de l'Indénié-Diablé. Patrick Wadio à Bangourou, Radio de la Paix.
Et l'actualité hors de la Côte d'Ivoire nous conduit au Mali où les autorités militaires ont déjoué une tentative de coup d'État, ont-elles annoncé hier soir dans un communiqué lu à la télévision nationale. Un Français soupçonné de travailler pour le service de renseignement français a été arrêté et le Mali accuse des États étrangers d'être derrière cette tentative de déstabilisation, rapporte l'agence France-Presse. Et puis, dans la province de l'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, de violents combats ont encore opposé les 13 et 14 août l'armée congolaise au mouvement politico-militaire de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, de Thomas Lubanga. Au moins 31 personnes sont mortes, dont 19 civils, dans des combats mercredi et hier jeudi entre l'armée congolaise et les miliciens de la CRP. Ces affrontements qui s'accentuent ont provoqué de nouveau un afflux des déplacés vers la ville de Bunia, capitale provinciale, selon le média. Et sans transition, nous retrouvons Mata Touré pour son dossier d'actualité sur la période des soldes. Après l'édition de mars dernier, rebelote depuis le dimanche 10 août et jusqu'à la fin du mois d'août, les soldes sont de retour. Cette période de bonne affaire est une aubaine pour de nombreux Ivoiriens, mais aussi pour les grandes marques, selon Mata Touré dans ce dossier d'actualité à suivre maintenant.
On a passé les prix pour vous. L'emballage même montre que ça sent bon. Vous n'avez pas besoin de sentir pour ressentir l'odeur.
Elles sont présentes dans la quasi-totalité des commerces que nous avons visités, installées devant leur téléphone portable cerclé d'un anneau lumineux pour vanter les produits en solde de leur magasin. Tout ceci en direct devant des milliers d'abonnés. C'est la tendance du moment.
Je suis Miss Kwaodia Némé, bienvenue. Et actuellement, nous savons que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, on fait les lives pour attirer plus la clientèle et en les vend des articles.
Un moment attendu par les consommateurs et les commerçants qui mettent les petits plats dans les grands. On rappelle que la vocation initiale des soldes est de vider les magasins pour récupérer de la trésorerie pour la saison suivante.
Je m'appelle Carla Zaro. Les clients sont très exigeants en ce qui concerne la qualité des produits, surtout en ce qui concerne leur maison. Donc, alors nous avons essayé de faire une promotion pour que les clients puissent bénéficier des produits de qualité. Et nous voulons que tout le monde en profite en fait.
On a cependant rencontré des consommateurs pour lesquels la désaffection des soldes est bien réelle. Certains estiment qu'on est en période constante de prix cassés. On peut donc acheter toute l'année, tandis que d'autres n'y adhèrent pas, tout simplement.
Vous, les soldes, c'est quelque chose qui vous parle ?
Non, pas particulièrement. Je pense que c'est une arnaque parce que, en principe, c'est une réduction du prix réel. Mais généralement, quand tu arrives, on ne sent pas véritablement la réduction. Donc, on s'est dit que les gens majorent les prix et après, ils font un solde pour revenir au prix réel.
Prudence ou grosse dépense pour Koulibaly Toumani, président de Signal, consommateur Côte d'Ivoire. Ces périodes de solde n'intéressent qu'une infime partie de la population ivoirienne.
C'est pour un groupe de personnes. Je pourrais dire, mais c'est 5%. Ça ne vaut pas 10%. Voilà, parce qu'à la réalité, on parle de cherté de la vie. On veut manger. Donc les soldes, c'est d'autres plans. Les mêmes modèles qu'on parle de soldes, on parle de la France. Donc on n'a pas le même pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est un phénomène qui est international. Les soldes, c'est dans les vêtements, d'un certain nombre de choses. Et puis, ce sont les commerçants qui doivent s'inscrire. Voilà. Donc, moi, je peux dire de façon très précise que les grands quartiers populaires, ça nous intéresse.
On rappelle que les marchandises proposées en soldes doivent avoir été mises en vente au minimum un mois avant la date du début de ces soldes.
Merci à vous, Mata Touré, pour ce dossier d'actualité qui portait sur la période des soldes, période qui va du 10 août au 31 août 2025 en Côte d'Ivoire. À présent, l'invité de la rédaction qui n'est autre que Mamadou Koné, le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Il revient sur la signature de convention entre son organisation, le Fonds de garantie automobile et le Bureau national ivoirien de la carte brune CDAO, convention qui vise à garantir une prise en charge rapide, digne et sans discrimination des victimes d'accidents de la voie publique. Il est interrogé par Didi Blé.
Monsieur Mamadou Jeka Koné, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes acteur de deux signatures cadres entre le Fonds de garantie automobile, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI d'une part, mais aussi avec le Bureau national ivoirien de la carte brune CDAO. Est-ce qu'on peut revenir sur la motivation de ces signatures?
La notion même d'accident, avec les conséquences que ça peut apporter, pose vraiment des défis en termes de prise en charge des victimes dans les hôpitaux. Donc l'idée ici, à travers ces partenariats, c'est de faire en sorte que quand nous avons des accidents avec des blessés graves, des blessés légers, et que ces blessés-là sont transférés dans les hôpitaux et dans les urgences, l'idée de cette convention, c'est de faire en sorte que la prise en charge soit la plus rapide possible. L'ASACI, le Fonds de garantie automobile et la Calbrune ont signé une convention qui est dédiée, évidemment, lorsque les victimes sont transférées dans les urgences, dans les hôpitaux publics, tout de suite, la prise en charge est faite par le Fonds de garantie automobile pour le compte de tout le monde.
Qu'est-ce qui change dans l'univers quand on sait que c'était un élément qui apporte une certaine plus-value, un soulagement?
Ce qui change, c'est l'instantanéité dans la prise en charge de la victime. La victime pouvait rester comme ça parce que l'assureur n'a pas confirmé et lorsque la victime est transférée à l'hôpital, voilà, elle pouvait continuer à souffrir, qu'on lui demande des dépôts, des cautions pour être prise en charge alors que la victime est déjà traumatisée. Ce qui change, c'est que là, désormais, cette prise en charge elle est systématique. Et avec la digitalisation des attestations d'assurance automobile aussi, et tout de suite on peut vérifier si le véhicule était assuré ou pas. Donc là aussi on n'a même pas d'ambiguïté. On a déchargé la victime de toutes les sources d'inquiétude.
Ce qu'on connaît, qu'en est-il des centres hospitaliers qui reçoivent justement ces victimes? Est-ce que les privés sont concernés?
Non, pour l'instant les privés ne sont pas concernés. Ce sont les hôpitaux publics dans lesquels sont évacuées les victimes. Et en général à l'intérieur du pays, c'est souvent le cas, y compris même à Abidjan. Soit les victimes sont évacuées dans les CHU, soit les victimes sont évacuées dans les CHR quand il s'agit s'agit de l'intérêt du pays.
Est-ce qu'on pourrait parler justement de cette double convention et le contenu et les avantages?
Eh bien, le contenu, ce sont les obligations du Fonds de garantie automobile, de l'ASACI. Et derrière l'ASACI, ce sont les 22 sociétés d'assurance qui sont derrière, mais aussi les obligations de la CARPRINCEDEAO. L'obligation du Fonds de garantie automobile, c'est de faire en sorte que lorsque ces victimes-là sont transférées dans les hôpitaux et qu'il est établi qu'évidemment ce sont des victimes assurées, que la prise en charge du Fonds de garantie automobile soit systématique. Donc, l'idée pour le Fonds de garantie automobile en l'espèce, c'est de donner les prises en charge nécessaires ou de faire les paiements nécessaires pour que les hôpitaux dans lesquels ces victimes-là sont transférées puissent délivrer les soins en toute sérénité, sans difficulté, sans toute forme de pression sur la victime, en tout cas que la prise en charge soit la plus totale possible. Là, c'est l'obligation du Fonds de garantie automobile, dès lors qu'il est établi que ces personnes-là sont dans des véhicules qui ont été assurés. Après, les compagnies d'assurance qui sont derrière, pour lesquelles ces prises en charge ont été effectuées, ont une obligation vis-à-vis du Fonds de garantie automobile, c'est de rembourser évidemment les fonds qui auront été déboursés par le Fonds de garantie automobile dans le cadre de ces prises en charge-là.
Qu'en est-il de la carte brune de la CDAO, justement, et sa part, puisqu'on parle d'intégration régionale?
Oui, l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de prendre en charge les sinistres transfrontaliers, des véhicules qui circulent dans l'espace CDAO, qui pourraient avoir causé des sinistres ici en Côte d'Ivoire. Et l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de faire en sorte que la prise en charge soit systématique, pour éviter évidemment que ces véhicules-là qui viennent peut-être du Ghana, qui viennent du Togo ou bien d'autres pays de la CDAO, les assureurs se trouvent dans ces pays-là. Quand ces véhicules-là sont ici en Côte d'Ivoire, l'objectif de la carte brune CDAO, c'est de leur donner la couverture nécessaire pour la prise en charge des sinistres. La carte brune CDAO se substitue dans son assureur, dans son pays, pour faire la couverture. Et la carte brune CDAO va rentrer dans son mécanisme de compensation pour retrouver l'assureur du véhicule concerné dans son pays et procéder à son remboursement.
On n'a pas de crainte concernant les recouvrements un peu compliqués?
Oui, évidemment, tout ça, ça peut rendre les recouvrements un peu compliqués, mais je pense que le secteur a beaucoup évolué dans son système de recouvrement. Le secteur a beaucoup évolué, les recouvrements sont beaucoup plus fluides. Les différents marchés pour la carte brune CDAO se retrouvent régulièrement pour faire le point et surtout rembourser. On ne devrait pas avoir de problème de remboursement, d'autant plus que cette convention-là, elle existait de façon beaucoup plus bilatérale entre le Fonds de garantie et certaines compagnies d'assurance.
Quels sont vos espoirs, vos attentes?
L'espoir, l'attente, c'est vraiment ce que le secteur des assurances, dans son ensemble depuis quelques années, est rentré dans une dynamique d'amélioration continue par rapport à l'expérience client, par rapport à l'expérience assurée. Nous travaillons toujours à initier de nouvelles réformes, toujours dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires du contrat, et toujours dans l'intérêt de faire du secteur des assurances un tiers qui apporte du soulagement aux populations ivoiriennes à travers le contrat d'assurance, mais aussi surtout à travers les assurances de responsabilité civile, mais aussi à travers les investissements que nous faisons dans l'économie de façon générale.
Monsieur Mamadou Kone, président de l'ASACI, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, et puis je reste à votre disposition pour continuer encore à parler du secteur des assurances.
À l'instant, vous écoutiez Mamadou Kone, le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI. Invité de la rédaction, il répondait aux questions de Didier Blé. C'est la fin de ce 12 heures, le rappel de l'essentiel. 27 décembre 2025, c'est la date proposée par la Commission électorale indépendante pour les prochaines législatives ivoiriennes. Au cours d'une réunion hier avec les partis et groupements politiques, rencontre boycottée par le PDCI qui argue une démarche pour mettre à mal la dynamique de l'opposition. Et puis, tentative de coup d'État au Mali, plusieurs personnes arrêtées, dont un Français, selon un communiqué des autorités militaires maliennes hier soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix. Avançons ensemble sur la route.